Salut les sportifs, c'est Hermano. Je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode de la saison régulière du podcast de Nakan. Alors, saison régulière qui finalement va reprendre ses droits puisque Greg nous a régalé avec des hors-séries de préparation pour l'Ironman de Thun. Ou plutôt devrait-on dire pour feu l'Ironman de Thun. Peut-être que cette série de hors-série reprendra l'année prochaine, modulo les conditions sanitaires. En tout cas, pour continuer dans cette série régulière, nous avons l'extrême chance de recevoir à nouveau un autre Greg qui nous a déjà fait l'honneur de venir nous faire un petit coucou pendant la période de confinement, à savoir Greg Runner. Salut Greg.
Ah, salut à tous les auditeurs. Merci de me recevoir une nouvelle fois.
Bah écoute, c'est avec un grand plaisir. Alors juste avant de te redonner la parole pour parler d'un autre sujet, je donne quand même le micro à notre autre Greg, l'hôte de ce podcast, le co-host de ce podcast. Salut à toi Greg de Nakan.
Salut Hermano, salut Greg. Ça me fait plaisir d'enregistrer cet épisode où on va parler de challenge. On en a parlé déjà il y a quelques semaines dans un épisode où on a parlé de multiples d'Ironman avec un furieux de l'endurance, et puis là un petit peu dans un autre domaine, dans un autre style, mais on va parler un petit peu aussi de challenge personnel et puis de challenge sportif. On sait qu'on aime bien ça, nous, dans le podcast de Nakan, donc fait plaisir d'avoir des invités qui relèvent ce genre de challenge.
Bah écoute, ce que je te propose, Greg Runner, on va encore se prendre la tête sur cette histoire de Greg. C'est ça le problème quand on a un invité et un co-host qui portent le même prénom. Ce que je te propose, on a déjà parlé de ton ultra trail du jardin. Peut-être que tu peux nous parler de cet autre défi que tu t'es fixé il y a quelques jours, à savoir une sorte de swimrun. Je te donne le micro, je te laisse nous en dire plus et définir toi-même ton défi.
Bah, c'est vrai que quand on avait fait le podcast sur l'ultra trail de mon jardin, on était un peu resté sur ça va être quoi le prochain défi. Et c'est vrai qu'on était tous dans le flou, à savoir, on se demandait est-ce que ça va durer ce confinement, comment ça va se passer les organisations d'épreuves sportives, puisque nous, on est un peu addicts au dossard, ça c'est clair, et on était tous dans le flou, donc c'est un peu compliqué quand on se prépare sur 5, 6, 7, voire un an pour des épreuves en particulier. Moi, je devais participer début juillet au Val d'Aran by UTMB, qui est un ultra trail donc 170 km qui avait lieu dans les Pyrénées et qui du coup n'a pas eu lieu. Et du coup, j'étais un peu frustré et je voyais surtout la suite des compétitions s'annuler au fur et à mesure. Donc ça augurait un été plutôt triste en termes de compétition. Et puis on voit bien que c'est le cas. Et en mai, quand on a parlé de début de déconfinement en France, on a pu élargir la préparation de 1 km à 100 km. Donc c'était bien, mais en même temps, ça voulait dire aussi, on reste confiné à un rayon plus large, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pouvoir partir pour certains à Hawaï ou pour d'autres dans les Alpes ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, je ne pouvais pas aller partir en montagne, ce que j'aime bien faire l'été. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que je m'organise un petit truc quand même, parce que sinon, j'ai plus à être gérable à la maison. Et du coup, en étant sur le bassin d'Arcachon, je me suis dit, tiens, je ferais bien le tour du bassin en courant. Sauf que le tour du bassin, c'est pas un lac, c'est une mer, c'est un bassin qui est ouvert sur l'océan. Et du coup, il y avait une partie qui est ouverte sur l'océan de l'ordre de 3,5 km. Et je me suis dit, on va pas prendre non plus la navette fluviale pour y aller. Et la meilleure chose à faire, finalement, c'est de nager. Et donc, voilà comment a démarré l'idée de ce projet.
Déjà, on se demande ce que tu faisais à Arcachon. Est-ce que tu étais en vacances ou ça faisait vraiment partie du défi que tu t'étais fixé quelques jours avant, quand on commençait à parler de déconfinement sérieux?
Moi, je suis, au niveau professionnel, moi et ma femme, on est à notre compte et on peut très bien travailler à distance. Donc, nous, le télétravail, je travaille de chez moi en permanence. Et il y a une de mes casquettes, c'est du coaching sportif que je fais en entreprise. Et depuis le 1er mars, en fait, ben, c'était déjà toutes mes missions étaient annulées parce que le confinement faisait. Enfin, avant même de parler de confinement, on parlait du Covid et donc de limiter la transmission du virus. Donc moi, j'étais déjà un peu en mode le mobile possible. Et quand on a annoncé en France que l'école serait fermée et qu'on allait avoir les enfants à la maison, nous, on est dans un immeuble, dans un appart. Ça allait être compliqué. On avait aussi une maison familiale qui avait besoin d'être tapée sur le bord du bassin d'Arcachon. Et du coup, ben, on s'est dit, bon, on file là-bas, ça permettra aux enfants de lâcher la pression et pour moi, ben, de me rendre utile et puis de pouvoir avancer sur les travaux en parallèle de ce que j'avais à faire. Donc voilà un peu déjà pourquoi j'étais sur le bassin. Et du coup, on est resté sur le bassin, j'y suis encore d'ailleurs, pendant 4 mois. Donc hors délai de confinement pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire sur cette maison. Et puis en même temps, on a pu vraiment découvrir, pour moi en tout cas, puisque c'est plutôt du côté de ma femme, la région dont elle est native. Et du coup, j'ai découvert cette région. Moi qui suis plutôt un gars qui préfère la montagne que la mer l'été.
Ouais, puis c'est vrai que du côté du bassin d'Arcachon, à part la dune du Pilat qui est peut-être un peu plus haut, il n'y a pas vraiment de montagne, contrairement à la Provence-Alpes-Col d'Azur, où là on navigue entre mer et montagne. Du côté d'Arcachon, c'est plutôt plat.
Effectivement, c'est beaucoup plus plat du côté du bassin d'Arcachon, il n'y a que la dune du Pilat, et c'est vrai que c'est pas le dénivelé manque un peu. Donc, c'est vraiment du plat.
Ouais, on peut peut-être à la limite se faire un kilomètre vertical sur la dune du Pilat, mais et encore.
Et alors déjà, moi je suis à l'opposé, donc il faut que je refasse tout le tour en courant pour y aller.
Pour juste faire quelques séries en côte, ça risque de faire un peu beaucoup. Hein.
Ouais, et puis le sable, c'est pas ce qu'il y a de plus génial non plus. Hein.
Ouais, non.
C'est clair.
C'est physique par contre. Hein. Ça entraîne les hautes intensités de courir dans le sable.
Voilà,
ça,
on n'a pas besoin d'aller vite pour monter dans les tours. Ouais.
Ouais.
Il paraît que pour la proprioception, c'est pas mal. D'ailleurs, ça me donne une idée de prochain épisode, Greg. On va pouvoir travailler sur la proprioception, la PPG et autres. C'est un sujet qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé.
Non, effectivement. Ouais. Revenons à notre invité et à son challenge. Donc voilà, arrivé dans la région du bassin d'Arcachon, te connaissant, il n'a pas fallu longtemps pour que t'imagines un truc que tu puisses relever au niveau sportif.
Ouais, c'est ça. Alors moi, après, je suis quelqu'un de très terrien. Donc le niveau haut, c'était un problème. Hein. Moi, j'ai fait fac de sport et on va dire que la natation, c'était vraiment là où je galérais le plus. Donc, je me suis dit, avant de valider le défi, il va falloir que je m'entraîne un peu. Donc, dès que les plages ont été accessibles en mode dynamique, on n'avait pas le droit de rester sur la plage, mais on avait le droit de marcher ou de nager. J'ai pris ma combi, j'ai testé un peu avec les courants, avec les vagues, etc. Par temps moche, par beau temps. Et finalement, alors j'allais pas faire un temps de malade. Hein. Le but, c'était pas de faire le record du 50 mètres. Mais en tout cas, j'arrivais à transposer l'endurance et avoir un rythme qui me permettait de rester constant et sur la durée. Donc à partir de là, une fois que l'entraînement, enfin les premières sessions, alors je me suis un peu planté parfois sur les marées où je me prenais des gros courants sur le retour, donc où je faisais du surplace, j'avais un peu le tapis roulant de la mer, quoi. Ça a permis de voir les problèmes que je pouvais rencontrer. Et mettre en place le projet pour que ça soit safe, que je puisse le faire correctement. Donc sur la partie natation, j'avais vraiment un stress qui était l'inconnu, parce que nager 3,5 km à vol d'oiseau, plus dans un passage étroit où il y a beaucoup de courant au moment des marées ascendantes ou descendantes, c'était assez stressant, ouais. Et finalement, je l'ai bien préparé. En termes de sécurité, en parlant du projet, j'ai eu des infos de gens qui avaient déjà traversé en palme ou à main nue, on va dire. Et Et du coup, ça m'a plutôt rassuré. Et après, ils m'ont aussi donné quelques tuyaux. C'était notamment de partir en fin de marée descendante ou ascendante pour profiter de l'étale et pouvoir être ramené vers le point sans être trop déporté en début de marée suivante. Donc ça a été assez salvateur d'organiser ça. Du coup, j'ai fait pas 3 km 200, mais 4 km 5. À cause des marées, mais voilà, parce que j'étais déporté. Mais finalement, ça s'est très très bien passé. J'ai vraiment kiffé cette partie de natation.
Alors, tu l'as dit, tu es plutôt terrien.
Ouais.
Là, tu nous as expliqué un petit peu comment tu avais organisé la partie natation, enfin, plutôt comment tu t'assurais que tu serais à même de relever ce défi sur la partie natation. Sur la partie course à pied, j'imagine que. À l'inverse, c'était beaucoup plus simple, tu jouais beaucoup plus sur tes terres. Donc, en dehors de trouver la route, c'était quelque chose que tu n'avais pas forcément besoin de baliser ou sur lequel tu avais besoin de porter trop d'attention.
Alors, oui et non. Enfin, c'est vrai que je me suis beaucoup focalisé sur la natation parce que c'était l'inconnu. Pour autant, il y a quand même 75 bornes à faire sur terre, sur du plat. Donc, on est plus sur une approche, on va dire, 100 km route. Sur une approche ultra trail où on a des temps, on va dire des gestions de temps entre le ravitaillement, la montée, la descente, etc., qui permet aussi de reposer certains muscles en fonction de la partie de dénivelé qu'on attaque. Là, on est vraiment en vitesse constante, sans rien d'autre que de continuer à la même allure. Et puis moi, je m'étais quand même mis le challenge de faire ces 3 km et demi de natation et ces 74 km de course à pied en moins de 8 heures. Et bon, c'était pas un drame si je j'y arrivais pas, mais voilà, comme tout compétiteur challenger, c'est dur de se le sortir de la tête quand même.
En plus, en sachant que comme tu l'as précisé tout à l'heure, avec le jeu du courant, enfin le jeu entre guillemets, tu n'as pas nagé 3 km 2, mais un petit peu plus, donc ça a rallongé aussi ton temps dans l'eau.
Ouais, ça a rallongé. Alors oui et non, parce que finalement j'ai mis moins de temps que ce que j'avais prévu. J'avais estimé entre 1h30 et 1h45 par rapport à ce que j'avais pu faire pendant mes entraînements. Et finalement, j'ai fait ça en 1h25 parce que les conditions aussi, météo étaient aussi excellentes. Hein. C'était, hormis les courants qui pouvaient me dériver, c'était peu de vent, pas de pluie, pas trop de soleil non plus. Donc voilà, c'était des conditions vraiment idéales. Donc ça, pour le coup, c'est ça aussi qui m'a permis de faire un bon temps de nage.
Alors, juste avant de passer après à la phase qu'est-ce que t'as apporté ce défi, sur la partie pratique, organisationnelle, est-ce que sur la partie natation, t'étais vraiment tout seul ou tu t'es fait assister par quelqu'un qui te suivait en bateau ou un autre nageur, les poissons, les dauphins ou autre?
Alors, oui, j'ai été accompagné par un bateau. Parce que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Comme sur route d'ailleurs, on peut très vite se sentir pas bien, avoir un malaise ou une crise cardiaque. Hein. Je pense que j'arrive aussi dans l'âge où entre 40 et 50 ans, on est plus, on a plus tendance à faire des crises cardiaques inopinées. mais bon, voilà, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Mon but, c'était pas de mourir sur un défi à la con non plus, parce que j'avais pas pris les bonnes mesures de sécurité. Et puis, je voulais pas non plus que n'importe qui derrière refasse la même chose l'été après un défi. Après que voilà, quelqu'un ait dit ah bah j'ai vu le gars qui a fait ça, moi je le fais demain après l'apéro quoi. Et que voilà quoi. Le but c'était vraiment d'avoir toutes les mesures de sécurité prises. Moi j'ai contacté aussi la sécurité maritime pour annoncer que j'allais faire la traversée, que les éléments de sécurité qui étaient mis en place. Donc en termes de sécurité, je nageais déjà avec une bouée. Une bouée.
une bouée de plongeur, la bouée rouge avec voilà. Un drapeau dessus.
Voilà, exactement, qui permet d'être visible. Et puis aussi, j'avais mis quand même dans cette bouée, il y a une petite poche qui permet de mettre des plaquettes. Parce que si le courant était trop fort, bah, ça me permettait de pouvoir continuer le défi et pas trop me reposer malgré tout sur le bateau non plus. Le but, c'était pas dès que c'est dur, hop, on monte sur le bateau et puis voilà. Non, le but, c'était quand même d'affronter un peu quand même les éléments. Mais j'en ai pas eu besoin. Donc, peut-être parce que les conditions étaient idéales.
Ouais, le truc était déjà bien planifié, donc du coup, tu as bénéficié des bonnes marées, des bons courants, etc. quoi.
Exactement, ouais. Le jour avait été choisi vraiment en amont pour par rapport à ces conditions-là.
Par contre, on a parlé brièvement, donc tu l'as annoncé que tu allais traverser le bassin à ce moment-là, mais tu n'as pas dû demander une autorisation pour pouvoir le faire, en fait.
J'ai pas demandé d'autorisation, non. Je sais pas si j'ai le droit de le faire, d'ailleurs, parce que je voulais pas qu'on me dise non aussi. Donc, ouais. J'ai joué un peu la carte du bon, il y en a qui l'ont fait, donc je peux le faire. Voilà. Mais j'ai pas été plus loin que ça. J'en ai pas trop parlé non plus aux municipalités. Moi, j'avais quand même contacté un peu l'office du tourisme du bassin pour lui parler un peu de ce que j'allais faire, mais il n'y a pas eu après il y a ça, le projet a été, il y a eu un bon bouche à oreille sur le bassin, donc il a été relayé dans les médias aussi, et du coup c'est comme ça que j'ai rencontré Nadia qui est sauveteur en mer et qui s'est proposé de venir sur le bateau pour donc elle était en tenue prête à intervenir au cas où, donc c'était d'autant plus rassurant. Donc moi j'avais plus qu'une chose, c'était de mettre un bras devant l'autre et puis de m'approcher de l'autre côté du bassin. Voilà, j'avais plus de soucis ni de stress puisque je savais que j'étais bien accompagné.
Alors j'avais deux questions encore sur la logistique. La première qui est toute bête, mais au niveau du ravito, est-ce que dans l'eau tu avais l'assistance du bateau qui tendait une perche avec une gourde comme on peut voir sur les courses de nage en eau libre de longue distance, ou est-ce que tu as été en autonomie totale sur 7h30 voire 7h40 que tu prévoyais de nage?
Non, c'est 1h45 hein, de nage, pas 7h.
Oui, non, sur 7.
Ah, d'accord.
Okay, et demi.
non, en fait, maintenant, je me suis dit, bon, 1h45, effectivement, on consomme de l'énergie, mais je ne me voyais pas non plus m'embêter à essayer de boire, manger, etc. pendant 1h45. À un moment, je m'étais même dit, en fait, il y a une partie du bassin où on passe sur une sorte de banc de sable qui fait que je suis amené à marcher. Donc j'ai l'eau jusqu'à la taille, je marche un peu et je m'étais dit tiens, je peux mettre une gourde ou prendre un gel dans ma bouée et puis le prendre à ce moment-là, et j'ai dit non, l'effort n'est pas si intense que ça et je pourrais bien m'hydrater avec la boisson énergétique que j'avais laissée sur le bateau pour la transition entre la natation et la course à pied. Pour bien reprendre un peu d'énergie, et puis après comme j'étais suivi en vélo et par une voiture sur la partie course à pied, je pouvais être alimenté régulièrement.
On est sur une épreuve de natation qui ressemble à celle d'un Ironman, hein, sur laquelle on a en général pas de ravitaillement sur ce type de distance et ce type de durée. Donc, c'est pas anormal, je dirais.
Je suis assez d'accord avec vous. Après, en général, sur une épreuve Ironman, déjà, on se lance pas forcément dessus quand on n'est pas trop habitué dans la natation. Ce que tu nous as dit en début d'épisode, hein, Greg, que l'élément eau, c'était pas forcément ton élément de prédilection. Donc, d'où ma question. Et puis, c'est vrai que sur un Ironman, sur une épreuve type Ironman, on commence dans l'eau et ensuite on est sur le vélo. Donc, on est sur un autre sport porté où il est plus facile de se réalimenter et notamment de se réhydrater, ce qui n'est pas forcément le cas sur la partie course à pied. Donc voilà la raison de ma question.
Ouais. Alors, je tiens à préciser quand même, parce que c'est vrai que parfois on dirait, limite, tu ne sais pas nager. Je savais quand même nager, j'ai quand même été en fac de sport, j'ai nagé. Je préfère le prévenir aussi pour ceux qui veulent se lancer sur des défis. Je me suis entraîné aussi en amont, je connais la technique, moi je dis toujours, je suis pas un bon nageur, parce que moi dans les compétitions de course à pied, j'arrive dans les 5 à 10% premiers, et du coup en général en sortant de l'eau, je suis plutôt dans les 50-60%. Du coup c'est vrai que pour moi c'est une frustration de me dire j'ai pas le niveau que j'ai en course à pied sur la natation, et pour autant je me débrouille, je nage le crawl, j'ai une endurance aussi. Voilà, il y a beaucoup de travail parce que je ne le fais pas, mais à part ça, voilà, il y a quand même, je n'ai pas de bouée canard non plus.
Non, mais c'est bien de le préciser, et comme tu le dis...
La performance que tu as réalisée sur ce défi, je veux dire, elle est honorable, vu d'un triathlète. Hein,
Merci, venant d'un triathlète, c'est waouh.
Alors, on parle de triathlon, tant qu'à faire, continuons sur la transition natation-course à pied. D'habitude, on parle plutôt de natation-vélo, ouais. Mais bon, là, c'est natation-course à pied. Une question, encore une fois, qui peut paraître bête, mais t'es parti dans ton défi de traverser ce bassin d'Arcachon d'abord à la nage. Qu'est-ce que t'avais prévu pour t'orienter? Parce que encore, quand on vise une bouée à 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, on la voit. À 3,5 km, j'imagine qu'on la voit déjà un peu moins. Comment est-ce que tu t'assures que tu pointes sur le bon endroit? Et est-ce que t'es vraiment arrivé au bon endroit, je sais pas, sur la plage, sur un port, sur une jetée ou autre? Ou est-ce que t'as été obligé de revenir un petit peu, soit à la nage, soit en marchant, pour repointer au bon endroit?
Alors non, ça s'est plutôt bien passé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti du Cap Ferret pour aller vers Arcachon. Donc Arcachon, c'est le côté aussi où il y a la dune du Pilat. Donc entre Arcachon et la dune du Pilat, c'est un peu, c'est un peu montagneux dans la mesure où il doit avoir 20 mètres de dénivelé. Donc il y a un peu de dimension, on va dire, par rapport à la mer. Enfin, ça reste voilà des dunes.
On va recaler le débat. Hein. Ouais. 20 mètres de dénivelé pour un ultra trailer, s'il te plaît.
Non mais je veux dire, c'est que quand tu regardes l'horizon, c'est pas t'as des choses visuelles, en tout cas, même quand tu es dans l'eau. Et puis il y a quand même des bâtiments qui étaient situés vers le lieu qui était la jetée du Moulot, et dont un bâtiment qui a une forme de pyramide bien visible, blanc au milieu de la verdure. Donc je visais ce point-là, et c'était assez visible malgré tout depuis l'eau et en nageant. Je m'étais entraîné aussi en nageant, parce que ça on l'apprend pas non plus quand on est en piscine. C'était à regarder un peu plus devant moi, à avoir une technique pour regarder devant sans perdre de temps dans la natation, sans s'arrêter, etc. Pour que ce soit naturel, que je puisse le faire régulièrement et pas trop changer de trajectoire. Pour autant, j'avais aussi le bateau qui était à mes côtés, qui me permettait de voir sa proue, dans quelle direction elle allait. Les courants, par moment, en fait, dans le fond du bassin, il y a aussi du relief. Et donc, il y a des endroits très profonds et des endroits où, comme je disais, je marchais. Et du coup, ça crée des déportations assez rapides. Et du coup, sur même pas 10 secondes, je pouvais tourner à angle droit sans m'en rendre compte. Et du coup, sur le bateau, on me sifflait. Pour me signaler que j'étais pas du tout sur la bonne voie. Et c'est vrai que quand je levais la tête, je sais pas, mince, je suis où? Et je regardais le bateau et ensuite je regardais la direction pour repartir dans la bonne direction. Donc il y avait deux éléments qui me permettaient d'avancer.
Dans la bonne direction. Okay.
Le bateau et le point d'arrivée.
Ouais. Alors moi j'ai encore plein de questions à te poser, mais je vais quand même laisser le micro à mon ami Greg, parce que j'ai l'impression qu'on fait un dialogue, une interview tous les deux, mais Greg est toujours là à ma gauche, donc vas-y Greg, si t'as des questions lâche-toi.
Bah écoute, moi c'est quelque chose que je connais relativement bien, de faire de la natation sur un plan en eau libre, parce que c'est comme ça que je m'entraîne en général, et puis c'est aussi un peu notre lot en compétition quand on fait du triathlon de moyenne ou longue distance. Donc ce que me dit Greg à l'instant, ça me choque pas particulièrement. C'est vrai que en général, pour se repérer, on essaye d'arriver dans un plan d'eau qu'on connaît déjà un petit peu, qu'on a regardé depuis le bord la veille, et puis qu'on a trouvé des points à l'horizon qu'on allait se fixer pour se diriger. Et puis voilà, je veux dire, c'est un peu la même chose qu'on peut conseiller aux triathlètes qui débutent. Sur une boucle, il faut pas se fier à regarder que les bouées, parce que les bouées, elles sont loin. Quand on est secoué par des vagues, on les voit pas forcément. Elles sont des fois aussi cachées par les vagues. Donc voilà, ce que nous disait Greg, c'est très juste. Trouver des points à l'horizon, regarder aussi un petit peu s'il y a des particularités dans le fond qu'on peut aussi utiliser. Enfin voilà, des petits détails. Donc moi j'ai pas de question particulière par rapport à ça, la question que j'aurais un petit peu plus à te poser, c'est au niveau de la préparation. Toi tu dis que t'es pas un grand nageur, dans le sens où je pense que t'avais pas des centaines de kilomètres de natation avant de te lancer dans ce défi. Donc du coup t'es allé quelques semaines avant, t'as nagé un petit peu, mais qu'est-ce que t'as fait pour être quand même relativement confiant de pouvoir terminer cette distance? En termes d'entraînement, c'était 2-3 fois par semaine, c'était une fois de temps en temps, enfin voilà, comment est-ce que tu as préparé ça?
Déjà, il y a le côté sympa que je connaissais pas, c'est de se préparer sur un plan d'eau en eau libre. Moi, la piscine que je connais, c'est plutôt celle qui est bondée, où tous les 25 mètres ou 50 mètres, on touche le mur, on repart, on regarde le fond. moi, ça me fatigue, mentalement de me dire, je vais me taper ça pendant une heure et demie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ça qui était plutôt compliqué. Et j'ai vraiment pris du plaisir à aller, quelle que soit la météo, j'ai nagé sous la pluie, j'ai nagé par grand soleil, par grand vent. Et du coup, j'ai pris un vrai plaisir d'être dans les éléments. Vraiment, alors que, voilà, l'eau et moi, ça faisait deux. Enfin, je prends mes douches quand même régulièrement, mais. mais voilà, l'eau et moi, ça faisait deux, et ça m'a plutôt réconcilié avec le milieu marin. Et après, au niveau de l'entraînement, ben, je me suis mis un peu dans la même optique que sur le trail, en faisant un peu moins de séances quand même, parce que ben, mes bras n'avaient pas l'habitude de travailler. Et du coup, ben, je me faisais deux séances par semaine où j'augmentais progressivement le volume. J'ai fait jusqu'à 3000 mètres en sachant que parfois, j'allais à contre-courant, histoire de forcer un peu. Voir un peu comment je réagissais et puis aussi préparer le mental par rapport à ça, puisque s'il y a un gros courant avec une météo dégueulasse où on se prend des vagues dans la tronche à chaque fois qu'on essaie de prendre une bouffée d'air, que j'y sois préparé et que j'ai pas le mental en coton et que du coup je sois dégoûté sur le défi.
Et puis, est-ce que tu as préparé la période de transition où tu vas sortir de l'eau et puis te mettre à courir?
Mentalement, j'avais préparé mentalement, vraiment. Je savais tout ce qu'il fallait faire. Je me l'étais préparé à plusieurs reprises parce que même si j'avais fait des sessions où je nageais puis j'allais courir 10 km après pour voir un peu, pour m'habituer, parce que forcément, passer de la natation où on est allongé à courir où il y a tout le sang qui doit venir dans les jambes, je sais que ça nécessite un peu d'entraînement déjà pour connaître les sensations et savoir les gérer.
Ouais,
et après, moi, j'avais juste expliqué ce dont j'avais besoin aux personnes qui m'accompagnaient sur le bateau et comment j'allais procéder pour que ça se passe bien.
Mais tu n'avais pas fait d'entraînement spécifique où tu sortais de l'eau et tu te mettais à courir comme certains triathlètes, surtout sur distance assez courte, hein, ils le font parce que tu peux perdre l'équilibre, tu peux avoir des chutes de tension. Enfin, voilà, si tu n'es pas préparé à le faire, alors c'est vraiment sur des distances très courtes en général qu'on constate ça parce qu'il faut sortir puis vraiment sprinter après. Mais ouais, ça peut poser des problèmes importants, quoi.
Moi, j'avais pas d'objectif de. Enfin, même si je voulais pas passer trois plombes sur cette transition, pour autant, j'ai réussi à me dire ce que je devais faire et je savais ce que j'avais à faire et du coup, j'ai pas perdu trop de temps. Je crois que sur la transition, j'ai mis 3 minutes 30. Donc, en sachant que j'arrive. Aussi, j'ai pas de parcours à faire à pied pour aller chercher un sac qu'on trouve pas, parce que ça arrive aussi parfois, qu'on trouve sa place pour changer, puis remettre le sac, enfin, etc. Moi, tout était prêt. J'arrivais, j'avais plus qu'à. J'avais une petite douchette d'eau claire pour me rincer. Je me séchais. Il y a même ma femme qui m'a séché les pieds avant que j'enfile les chaussettes, donc c'était idéal. Hein. ça, je crois pas que sur triathlon, c'est autorisé à le faire.
Non. Confirmé.
Ouais, on est d'accord. Hein.
Bah, sauf si ta femme court avec toi le triathlon. Là, t'as le droit à l'assistance interne, mais pas l'assistance externe.
et après j'enchaînais direct sur la course, donc il y avait en termes de parcours de transition il devait avoir 15 mètres, hein, donc ça va. Non, je suis plutôt content de la transition, ça s'est bien passé comme je le souhaitais, donc mais après 3 minutes ou 5 minutes quand on part pour 8 heures mieux,
non,
je suis plutôt
sûr,
dans le vide, je prends mon temps, je veux pas mettre la pression pour éviter d'aller trop vite et oublier quelque chose. D'ailleurs, j'avais oublié mes lunettes de soleil. Heureusement qu'il n'a pas fait très beau.
Alors, vu qu'on parle de la partie logistique et préparation, tu l'as dit, tu as été assisté sur la partie natation avec un bateau qui te suivait et à l'intérieur de ce bateau, une sauveteuse en mer. Sur la partie course à pied, si j'ai bien compris, tu étais assisté non seulement par un vélo, mais aussi par une voiture. Voilà. Assisté, du moins, ces gens te suivaient et j'imagine qu'ils pouvaient aussi te filer le ravito et ils étaient là de toute façon en cas de pépin. Sur la partie préparation en elle-même de ce défi, est-ce que tu étais aussi assisté et principalement sur la partie natation, parce que tu l'as dit que tu faisais des séances jusqu'à 3000 mètres en eau libre, est-ce que tu nageais sur une plage surveillée, est-ce que tu allais nager avec quelqu'un ou c'était vraiment tu t'es vraiment lancé là-dedans tout seul au risque justement d'avoir un pépin plutôt dans la partie préparation que dans la partie défi en lui-même?
Sur la partie préparation, à chaque fois je suis parti avec ma bouée. Il y a toujours quelqu'un qui savait ce que je faisais et où j'allais. Et en plus, je nageais le long de la côte. Je traversais pas tous les jours le bassin pour m'entraîner parce que déjà il y a du trafic fluvial. Hein. Moi, j'étais vigilant aux sorties de ports parce qu'il y a plusieurs ports, donc il y a des endroits où les bateaux sortent, notamment les ostréiculteurs. Et c'est vrai que quand il pleut, dès qu'il y a l'eau qui va sur le pare-brise, on voit moins bien. Moi, je reste quand même, malgré la bouée rouge, pas très visible. Hein. Donc c'était à moi aussi de rester vigilant. Et puis voilà. Mais c'était aussi, enfin, le trafic fluvial était important, mais on n'avait pas encore tous les touristes qui avaient débarqué non plus. Donc ça restait quand même des gens qui connaissent le bassin et qui sont professionnels sur le bassin. Moi, par rapport à ma forme physique, si j'avais un pépin, très vite, je pouvais me mettre sur le côté et m'arrêter. D'ailleurs, à un moment, au départ, j'avais mal estimé les courants, etc. Je n'ai pas pu revenir. Je suis rentré en courant, en combi, chez moi, en me disant, il faudra que je m'organise mieux la prochaine fois.
Ok, alors on a quand même beaucoup parlé de la partie logistique, préparation, le défi en lui-même sur l'aspect temps, sur l'aspect organisation avec ta transition et autres. Si on revenait maintenant à l'essence même de ton défi, tu t'es lancé ce défi-là, peut-être par opportunisme, parce que tu t'es dit, tiens, si je traversais ça, puis hop, je vais pas le faire que en course à pied, je vais le faire aussi la partie natation. Est-ce que, attaché à ce défi que tu t'es fixé, ce défi sportif, tu y avais, comme pour l'Ultra Trail de Montjardin, enfin du tien en l'occurrence, est-ce que tu t'étais attaché à une œuvre caritative? Est-ce que tu avais un autre but que uniquement le défi sportif?
D'abord, parce que c'est vrai, on se dit tout de suite, pourquoi tu le fais? Pour me faire plaisir. Je le fais pas juste pour. On peut pas se dire, je vais faire ça pour une association. Tu peux pas le faire si t'as pas envie de le faire. Moi, ça me faisait plaisir. C'était un projet qui était venu comme ça. Pas du jour au lendemain en claquement de doigts, puisque le tour du bassin, ça faisait comme j'y passe une semaine chaque été, je me dis, un de ces jours, il faudra que je fasse le tour du bassin en courant. Mais c'était un truc qui était resté en suspens. Et puis là, en étant là, je me dis, quitte à rester bloqué dans les 100 km, ce serait peut-être le moment de le faire. Donc il y avait déjà cette opportunité et cette envie de le faire. Et effectivement, après, quand j'ai vu qu'en plus personne ne l'avait jamais fait avant, cette traversée du bassin et enchaînée avec la course à pied, j'ai dit, il y a peut-être moyen de le mettre un peu en lumière et de le faire pour une cause. Et moi, j'avais notamment pensé le faire pour l'Âme de Joie, qui est une association en fait qui récolte des fonds pour financer les lames qui permettent aux enfants amputés de pouvoir marcher, courir. Et moi, j'aimais bien cette idée de que les enfants puissent aussi profiter d'un truc qui me fait plaisir, c'est-à-dire de faire du sport et de courir. Et aujourd'hui, en fait, les lames ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, et donc c'est considéré comme un agrément, et du coup c'est super compliqué pour des parents de financer une lame. C'est 2 500 euros qui est en plus qu'il faut changer à peu près tous les 18 mois parce que à cause de la croissance. Et donc cette association, elle fournit les lames, et quand l'enfant est trop grand, il récupère la lame pour la donner à un autre enfant, et il trouve les moyens pour lui fournir une nouvelle lame. Donc ça, je trouvais vraiment sympa. Malheureusement, comme l'idée du projet a été assez rapide à mettre en place, il y avait à peu près un mois et demi, l'association, en fait, la personne avec qui j'étais en contact pour cette association, qui est une toute petite association, sa fille est tombée malade, et donc on n'a pas pu mettre en place la collecte parce qu'il y avait quand même des choses à faire au niveau administratif. Il y a toujours l'administratif dans ce cas-là. Et donc, j'ai pas pu le faire. J'ai essayé d'en parler le plus possible, en tout cas, de cette association, mais c'est vrai que du coup, il n'y a pas eu de retour financier direct par rapport à ce projet.
Non seulement tu te fais plaisir avec un beau défi, mais en plus tu essayes de faire plaisir aux autres. En tout cas, c'est bien que t'en parles aujourd'hui, même si on n'a pas une portée internationale comme certains médias pourraient l'avoir. En tout cas, on va pouvoir relayer l'information, et peut-être qu'on pourra mettre aussi dans les notes de l'émission les informations pour contacter cette association et pour faire un éventuel don s'il y en a qui veulent contribuer aussi à cette bonne cause.
Puisqu'on a la chance, nous, de pouvoir courir, sauter, etc. C'est bien de pouvoir aider ceux qui peuvent pas le faire non plus.
Exact.
En off, je te disais aussi que dans le déroulé de l'épisode, ce que j'aimerais aborder avec toi, maintenant qu'on a bien parlé de la logistique, maintenant qu'on a bien parlé du défi, maintenant qu'on a bien parlé des causes que tu défends à côté, et avant de parler d'un prochain défi, ça peut-être que tu en auras d'autres et peut-être que tu nous en parleras, j'aimerais savoir ce que ça t'a apporté, toi, une fois que tu as réalisé ce défi. Alors, ok, tu es un ultra-trailer, l'endurance, c'est ton truc, tu connais, et même si tu t'engageais plus ou moins sur un 170 bornes ou 175, t'en as fait finalement que 75 en courant plus la partie natation. Mais une fois que t'es arrivé au bout de ce défi, qu'est-ce que tu en as retiré personnellement, physiquement, sportivement, émotionnellement, psychologiquement? Est-ce que tes proches en ont retiré quelque chose aussi avec toi?
Alors moi, je voulais revenir un peu sur un autre point du défi, c'est quand même la partie course à pied, parce que c'est vrai qu'on a tendance à switcher, parce que on se dit tiens ouais j'ai un coureur, bon bah finalement le coureur, la course à pied ça va bien se passer, c'est la natation ça va être compliqué. Et malgré tout finalement, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que la natation s'est super bien passée, j'ai grave kiffé. La course à pied, ça a été dur, vraiment très dur, parce que bah, déjà, j'avais un rythme que je m'étais imposé à suivre. Donc, c'est ça aussi le challenge. Ce n'était pas non plus de le faire en mode randonnée ou le faire tranquillement. Donc, je suis resté, je crois que j'ai une moyenne d'à peu près 11,7 km/h sur tout le trajet, avec ravitaillement compris. Donc c'est un très bon rythme, en sachant qu'il a fait super lourd et j'ai dû doubler en fait pendant le défi mais mon apport hydrique. Moi j'étais parti sur 500 à 600 millilitres par heure, parce que 100 litres.
T'as 500 litres, je comprends pourquoi t'étais suivi par une voiture.
Le bassin serait vide, hein. Mais voilà, et je suis passé à plus de 1 litre à l'heure parce que vraiment je transpirais comme jamais. Et en plus sur les, on va dire sur les la moitié, voire un peu plus du parcours, j'ai vraiment eu le vent de face qui m'a vraiment fatigué et séché aussi du coup. Et du coup, c'est vrai que je finis quand même à devoir gérer sur les 15 derniers kilomètres des crampes qui pouvaient arriver et puis me stopper. Donc, c'est là aussi où je me suis dit, enfin, c'est ça aussi que j'en retiens une satisfaction, c'est que voilà, j'ai retrouvé un peu mes limites. Je les ai pas dépassées, parce que c'est mauvais signe dans ce cas-là, mais j'ai réussi encore une fois à les pousser à mon maximum ce jour-là. Et ça, déjà, c'est une satisfaction de savoir, de se connaître et de savoir gérer. Ça, c'est une satisfaction. C'est-à-dire, je me connais, voilà, j'ai réussi à faire le défi comme je le voulais en amont, c'est-à-dire en moins de 8 heures. Et ce qui a été génial, c'est que quand j'ai pensé le projet, je me voyais assez seul. Et finalement, en parlant du projet, c'était une trentaine de personnes à l'arrivée, les gens qui m'accueillaient, il y a des jeunes qui me connaissaient comme ça vaguement, qui maintenant me suivent sur Instagram, qui ont posé plein de questions sur comment c'est possible de courir 75 km. Enfin, voilà. Et tout cet engouement-là, bah, je trouve que c'est génial, parce que c'est des choses positives, on parle de choses positives. À un moment où on est vachement dans le négatif, on a toujours la menace d'un virus mondial qui veut notre peau. On a la famille, des amis qui ou soi-même qui avons des problèmes avec le boulot. Voilà, il y a plein de choses négatives en ce moment. Et là, ça permettait d'avoir de retrouver la famille aussi et les amis que j'avais pas vus pendant le confinement. Et deux, ben d'apporter un peu de légèreté, quoi.
Pour en revenir à la course à pied, tu dis que c'était une partie qui était pas si facile que ça. Toi, t'es un trailer, t'as l'habitude d'avoir un peu de dénivelé. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit peu de lassitude par rapport au fait que c'était tout plat? Et puis, est-ce que ça t'a pas un petit peu aussi pénalisé d'avoir l'habitude de courir dans du dénivelé, monter, descendre, d'avoir un petit peu de variation d'allure? Et puis alors là, que tout d'un coup, tu te retrouves à courir comme un métronome parce que il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variété. Et puis, est-ce que ça, c'est usant ou est-ce que c'est plus fatigant ou moins? Ou comment t'as trouvé ça?
Alors, c'est vrai que je me considère pas comme ultra-trailer, je me considère comme un coureur qui court un peu partout. Donc moi, sur l'année, je vais courir des compétitions de 5 km comme je vais courir des 100 km sur route et okay. Aussi des ultra trails en montagne, voire des trails courts aussi en montagne. J'aime cette variété et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens un peu assez complet, même si quand on travaille quelque chose on perd forcément de l'autre et ça nécessite un travail, voilà. Mais j'ai fait pas mal de 100 km dont des 100 km que j'ai pas terminé, parce que voilà, c'est des courses qui sont assez particulières, parce qu'effectivement c'est plat, qu'on est sur une constance. Après, dire que c'est lassant, pas forcément, puisque je pense que dans l'ultra, dans les compétitions d'ultra, on a la capacité à se mettre sur des objectifs courts Et on n'est pas en train de se dire, bon, c'est dans 70 km l'arrivée, au bout de 5 km. On est aussi très concentré sur nos sensations, sur ce qu'on doit faire, manger, boire, parce que ça peut être pénalisant pour la course. Donc non, je trouve pas ça lassant, moi. Surtout qu'en plus, il y a une grosse partie du parcours qui était finalement sous les pins. Et il y avait que le premier tiers où j'avais un peu de vue sur le bassin, les ports, des endroits naturels assez ouverts. Après, j'étais sous les pins face au vent. C'est vrai que là, ça aurait pu être assez lassant, mais non, je m'en suis pas lassé en tout cas.
Alors tout à l'heure, tu parlais de ton organisation sur l'aspect alimentation ou plutôt hydratation.
Ouais.
Tu nous l'as dit en introduction, t'as l'habitude de courir, t'es ultra-trailer, coureur, sur tout type de terrain. Malgré tout, t'as dû ajuster ton apport hydrique sur cette course par rapport à ce que t'avais prévu. Comment est-ce qu'on en vient à se dire, tiens, là, il faut que j'ajuste? Parce qu'on est bien d'accord, quand la soif arrive, c'est que c'est déjà trop tard, t'es déjà déshydraté ou en voie de l'être.
Ouais.
Donc, comment est-ce que toi, tu t'es dit, finalement, au lieu de passer à 500 millilitres par heure, je vais passer à 600, à 700, à 800 ou à 1 litre. Et puis, ok, t'as sué, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut gérer aussi les aspects techniques que sont la pause pipi ou la pause grosse commission?
Ouais, alors c'est vrai que quand on dit voilà, il va boire 1 litre par heure, c'est vrai qu'il va s'arrêter pour uriner. Je crois que j'ai fait de très courtes pauses et que j'ai pas uriné tout ce que j'ai bu. C'était vraiment, je crois que j'ai dû faire deux pauses pipi. Mais non, justement, c'est parce que j'ai vu en fait, j'ai pas ressenti la soif. C'est juste qu'à un moment, je suis arrivé, j'ai enlevé mon t-shirt, je l'ai essoré. Je l'avais pas essoré. Enfin, ce t-shirt-là, c'est un des t-shirts fétiches que j'ai quand je cours. Donc, je sais, ça a été un peu le signal d'alerte. C'est que il me collait vraiment. J'ai sorti. Il y a pas mal d'eau qui a coulé quand je l'ai essoré. Et là, je me suis dit, mince, c'est pas normal, surtout en début de course. Sachant qu'en sortant de l'eau, j'étais quand même bien sec. Ensuite, donc, ça pouvait pas venir du bassin. Mais et c'est là que je me suis dit non, il y a j'ai demandé d'ailleurs à Sébastien qui m'accompagnait, je ne trouve pas qu'il fait un peu lourd, parce que parfois on peut avoir des sensations différentes. Lui en vélo, si il fait lourd, j'ai bon, on va commencer à augmenter la boisson pour être sûr. Et puis après, le truc, c'est que même si on fait des programmes, on boit à sa soif. C'est-à-dire qu'à un moment, je dis ouais, j'ai pas, il faut que je boive, c'était pas possible autrement.
Ok. Sur l'aspect parcours en lui-même, on a parlé du parcours en natation. Comment est-ce que malgré tout tu traces ton parcours en course à pied? Parce que là, on ne parle pas d'une sortie de 5 bornes, on ne parle pas d'une sortie où tu arrives une fois en vacances et puis tu dis tiens, j'irai bien rejoindre ma femme qui est partie faire des courses, ça doit être dans les 15-20 bornes et puis on verra, je suis la route et ça doit être tout droit. Non, là, on parle vraiment d'un défi, 75 bornes. Si tu rajoutes une boucle de 5 bornes parce que tu t'es trompé, ça n'a pas le même effet que si c'est un petit tour de 500 mètres parce que tu arrives sur une impasse. Donc comment est-ce qu'on trace ça et comment est-ce qu'on s'assure qu'on est sur le bon tracé?
Alors je me suis un peu arraché les cheveux sur le parcours pour effectivement me dire tiens, c'est comment je vais faire pour faire ce tour du bassin. Il y avait en fait deux grosses options. C'était soit de suivre le GR, il y a un GR qui fait le tour du bassin, soit de suivre la piste cyclable ou faire un peu des deux, c'était ça aussi qui était envisageable. Et finalement, j'ai opté plutôt pour la piste cyclable, tout simplement parce que la piste cyclable, elle était un peu plus loin des rives du bassin, et donc elle était à l'abri du soleil. S'il faisait un grand temps ensoleillé, il pouvait vite faire chaud, et donc même si ça aurait pu être sympa au niveau de la vue, c'était aussi un moyen de, enfin moi qui aime pas trop la chaleur en général, si c'était une grosse journée, c'était début juillet, donc il y avait plus de chances qu'il fasse du 30-35 degrés et que du coup je puisse avoir très chaud. Et d'autre part, en étant au bord du bassin, on est forcément exposé au vent. Comme en plus il y a eu du vent, je me dis j'étais finalement quand même pas mal dans les pins, comment j'ai pu souffrir du vent. Donc, et en plus, je pense que ça m'aurait en plus augmenté la déshydratation ce jour-là. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de plutôt suivre la piste cyclable, qui était aussi du coup plus roulante et plus facilement identifiable que le GR. On peut tourner d'un seul. Enfin, les chemins sont parfois un peu trop discrets et on peut en courant très vite se louper.
Se tromper, ouais. Et puis, est-ce que ton parcours, tu l'as repéré à vélo, en voiture ou autrement, avant de le faire en course à pied une fois pour voir chacun des endroits où tu allais passer?
Bah, y a des parties que je connaissais puisque je m'y entraînais. Il y avait d'autres parties que je connaissais pour avoir fait un peu de vélo, et donc je connaissais à peu près la moitié du parcours. Une autre partie que j'avais été voir en visitant avec la famille le parc ornithologique qui était de l'autre côté. Donc j'ai dit bah tiens, je vais voir si on peut y passer en courant ou si c'est si compliqué. Et puis après il y avait toute une partie qui était vraiment de la jetée du boulot pendant on va dire une 15-20 bornes que je connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un peu sur cette partie-là qu'on a un peu jardiné au départ parce que voilà, on a fait des petits détours, mais c'était pas méchant. Je crois qu'on a dû faire 100 ou 200 mètres de plus, mais par rapport à ce qui était prévu. Mais voilà, ça reste sympa. Et puis il y avait Sébastien aussi. Moi, j'avais fait mon parcours sur Strava parce que maintenant il y a un planificateur d'itinéraire qui est plutôt bien fait. Et donc lui, enfin, je lui avais donné le lien et du coup, il suivait sur l'appli directement le tracé, et quand il avait un doute, il partait un peu en avant pour identifier. Et du coup, moi, j'avais pas besoin de ralentir pour chercher où j'allais et me donner la direction. Donc ça, c'est ça aussi qui est sympa d'être accompagné par quelqu'un.
Bon, du coup, maintenant, tu connais par cœur le bassin. Tu nous as parlé de la traversée en natation. Tu nous as parlé de la bande cyclable. Tu nous as parlé de tout ce parcours de course à pied. L'année prochaine, tu es l'organisateur de l'Arcachon Man.
Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a plusieurs qui m'ont demandé si je comptais organiser la course. Mais non, je passerai pas du côté obscur des organisateurs. Je préfère encore voilà, me laisser porter. C'est vrai que ça prend pas mal de temps. Et je suis pas sûr d'avoir les conditions d'organisateur et de pas dormir autant qu'ils peuvent ne pas dormir quand ils organisent une course. Et surtout que maintenant, quand on voit parfois les personnes, comment ils se comportent auprès des organisateurs, ça donne vraiment pas envie. Je pense notamment pendant le confinement où ben il y a des organisateurs qui ont carrément mis la clé sous la porte parce que un, ils appuient les fonds, et deux, en plus ils se faisaient insulter parce qu'ils pouvaient pas rembourser les personnes qui s'étaient déjà inscrites. Voilà, ça reste du loisir. Si on peut se permettre de payer du loisir, même si parfois on fait des efforts pour ça, ben, il faut savoir que ça reste des événements outdoor, qu'on dépend de plein de choses, et que l'annulation, ben, les organisateurs, ils font pas ça pour se mettre l'argent dans la poche, sinon ils feraient autre chose, et que c'est aussi pour partager une passion. Et malheureusement, on perd un peu cette idée-là. On a un peu trop la tendance à partir sur une consommation d'événements et pas sur un se donner un challenge sportif et de partager une passion commune.
Moi, je suis un peu biaisé par l'autre podcast que j'anime qui s'appelle Dans les vestiaires, où j'analyse un petit peu les mécanismes que mettent en place les sportives et les sportifs de haut niveau pour financer leur carrière. Pour revenir sur ton défi, est-ce que toi, ça t'a coûté quelque chose? Est-ce que t'as indemnisé les bénévoles qui sont venus t'aider? C'était un peu en mode sortie très, très longue du dimanche et ça t'a pas coûté plus cher que te rendre sur une course?
Alors, sur la course, en fait, je m'étais dit oui, effectivement ça coûte, parce que voilà, il y a la traversée en bateau, c'est du kérosène, c'est du temps d'argent, c'est de l'argent qui est dépensé. Il y avait aussi de l'équipement, puisque en natation j'en faisant pas, j'avais pas forcément tous les équipements qu'il me fallait. Et puis finalement, c'est en parlant avec une des entreprises que je coachais et qui est devenu un ami, donc Thibaut, j'interviens donc dans sa boîte régulièrement, et du coup là il était passé sur le bassin lui aussi, et j'ai dit tiens, on pourrait courir ensemble, ça pourrait être sympa. Et puis on a fini les pieds dans l'eau à la fin de la séance, et puis il me dit alors ton projet, t'en es où? Je vois, faudrait que je trouve un sponsor pour financer un peu le truc, voilà, ça serait pas mal, je te sponsorise, il n'y a pas de problème. Et puis ça s'est lancé comme ça. Du coup, le soir, il n'y a pas eu de remise d'argent auprès des bénévoles, mais en tout cas le soir on s'est fait une bonne fête à la maison, et c'était voilà une manière de remercier tous ces gens qui sont déjà la famille, et puis aussi ces personnes qui spontanément se sont présentées pour m'assister sur la nage, ou aussi pour filmer la partie natation avec un drone. Ça a permis de faire de belles images sur le film de la traversée ensuite.
Effectivement, au début de cet épisode, tu nous as dit que même si t'avais pas forcément fait beaucoup de tapage médiatique, les médias locaux avaient quand même été informés, donc t'as eu une petite couverture au niveau des informations locales. Ouais. Comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que là, t'es pas sur une course officielle organisée, donc t'es vraiment le centre de l'attention. Est-ce qu'ils prennent rendez-vous? Est-ce qu'ils viennent comme ça de façon opportuniste? Et puis après, le rendu, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'ils te filment pendant les 8 heures et puis t'as le droit à un spot de 15 secondes? Quel est ton ressenti là-dessus?
Alors moi, j'avais quand même contacté un peu les médias parce que je savais qu'il y avait, on va dire en jargon de communication, qu'il y avait un espace vide à occuper au niveau sport. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu après avec tous les défis sportifs. Enfin, je crois que tout le monde s'était donné un peu le mot en disant on a un mois pour se préparer, pour occuper après l'espace vide médiatique qu'il y aura avant l'été, et d'où les différents challenges de trail qu'on a pu voir notamment. Donc moi, voilà, je m'étais lancé un peu sur pour contacter des médias qui ont plutôt bien reçu le défi. C'était original, c'était nouveau, voilà, ça permettait d'avoir une page sport un peu plus dense que ce qui était fait depuis quelques mois. Donc j'ai eu pas mal de en fait, ça c'est généralement fait par téléphone pour la presse écrite ou pour la radio. Et après, il y a deux télés sur le bassin, hein, local, qui en fait sont venus pour une à mon entraînement et pour la seconde au départ de la course. Il n'y avait pas eu de suivi, il n'y a pas eu de retransmission sur Canal ou sur TF1, tout ça. Mais bon, c'était vraiment sympa de voir un peu comment ça se passait et puis de voir des gens qui sont passionnés par leur travail et qui étaient intéressés par ce que je faisais. C'était...
Bon, de toute façon, la gloire ultime, elle t'est apportée là, maintenant, aujourd'hui.
Exactement.
En passant dans la canne.
J'attendais ce soir avec impatience.
ok, Greg, Greg Nakan, est-ce que tu as d'autres questions pour Greg Runner finalement, on a bien fait le tour, pas du bassin d'Arcachon, mais on a bien fait le tour de ton défi.
Bah oui, on a bien fait le tour, je crois, du défi sous différents aspects. Maintenant, on sait, Greg, que t'es un homme de challenge. J'ai vu passer sur Twitter une question il y a pas longtemps. C'est maintenant, les gars, il me faut un nouveau défi. Qu'est-ce que ça va être? Moi, je te retourne la question. Ton prochain défi, qu'est-ce que ça va être?
Bah, j'ai trois beaux défis là en tête qui vont me sortir de l'eau. Ce sera pas dans l'eau en tout cas. Mais faut voir sur la faisabilité, sur beaucoup de choses. Donc, je m'avance pas encore. Savoir parce que c'est des projets qui vont être un peu plus longs à organiser, mais ouais, il y a du projet qui s'organise et je suis assez excité de me dire j'ai vu un peu comment ça s'organisait un défi comme le Tour du Bassin, j'ai vu ce qu'il fallait faire, comment il fallait s'y prendre, etc. Il y a des choses un peu plus grosses qui vont se mettre en place maintenant pour voir comment je peux le faire.
Bon, Greg, ce que je te propose, c'est qu'on a déjà un grand consultant suprême sur l'aspect physiologique et médecine du sport. On va prendre un autre grand consultant suprême. On prend rendez-vous pour tes prochains défis, pour que tu viennes nous en parler. Puis peut-être aussi en amont, quand tu auras décidé de te lancer dans la partie médias et de diffuser le message dans la préparation de tes défis, peut-être que tu pourras aussi venir nous en parler avant sur justement comment est-ce qu'on organise tout ça, comment est-ce qu'on prépare tout ça, comment est-ce que tu vois ça, et puis on fera le post-défi pour relever les compteurs, ça te va?
Avec grand plaisir.
ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un petit peu le suivi, non pas a posteriori, mais pendant que ça se déroule, pour voir un petit peu les accros, pour voir un petit peu les changements de plan qui pourrait y avoir quand on constitue un défi d'une ampleur un petit peu plus grande, comme on ose l'imaginer, que ce que t'as fait là autour du bassin d'Arcachon. Donc effectivement, je pense qu'il y a de la logistique, il y a de l'organisation, il y a plein de choses à prendre en compte, et je pense que c'est très intéressant de suivre ça de A à Z. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on t'invitera pour en parler quand ça se mettra en place de manière un peu plus concrète.
Avec grand plaisir, j'ai hâte de vous partager ça.
Super. Ben, merci beaucoup, Greg et Greg, pour cet épisode. Greg, n'oublie pas de nous envoyer toutes les infos avec tous les détails de ton défi et puis le nom aussi de ton sponsor si tu veux bien le partager, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode pour nos auditeurs. Et puis, bah, encore une fois, le traditionnel appel à l'action. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à venir nous le dire sur notre site internet podcast.nakan.ch ou laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide à nous faire repérer par d'autres amateurs potentiels de ce podcast et à remonter dans les rankings. Et puis, bah, encore une fois, félicitations pour ton défi, Greg. Et on se donne rendez-vous pour ton prochain défi, alors.
Ben, un grand merci. Et puis, merci de m'avoir reçu, Hermano et Greg. C'est vraiment sympa. On prend vraiment du plaisir à être invité sur votre podcast.
Ben, écoute, merci, nous cool. aussi, on prend du plaisir. Et puis, merci d'être venu nous partager ça. On se retrouve avec grand plaisir pour le prochain défi.
Merci. Ciao.